Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 FM. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 décembre, nous sommes en direct de 19h jusqu'à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion sur Radio Galère de 9h à 10h et sur notre chaîne Spotify. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leur expérience ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Mathieu Cheminal et aujourd'hui je suis accompagné de Félix en régie.
Bonsoir à tous.
De Jeanne en studio.
Salut les gars.
Salut Jeanne, salut Félix. Et on accueille aujourd'hui Frédéric Olive. Bonjour Frédéric.
Bonsoir à tous.
Et donc Frédéric, tu es directeur de Cosens. Cosens qui est un incubateur d'entreprise et tu proposes des services de couveuse d'entreprise, de formation, de conseil en création d'entreprise et aussi des espaces de travail collaboratif, de coworking ou encore de tiers-lieux.
Tout est juste.
Tout est juste. Et tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Alors Frédéric, déjà comment ça va ? Avant d'aborder le moi, le nous, le tout, quel est ton niveau d'énergie aujourd'hui ?
Eh bien l'énergie est bonne aujourd'hui. L'énergie est bonne parce qu'on a commencé la journée avec un lancement de projet. On accompagne une commune qui est la commune d'Allo à la création d'un nouvel espace. Et donc ce point d'étape de lancement s'est bien passé. Donc l'énergie est bonne. Après je suis un peu anxieux parce que c'est ma première fois à la radio. Et donc il y a un peu de tension et d'émotion.
Eh bien écoute, bravo en tout cas pour ce nouveau projet. Nous on est ravis que tu sois là. Et tu vas voir, tout va très bien se passer avec Jeanne et moi en studio. Alors, tu le sais, dans cette émission, on fait référence à l'arbre. On ne s'appelle pas la Forêt des Possibles pour rien. On fait des ateliers de l'arbre, une allégorie de l'arbre. Et l'idée, c'est d'aider chacun à trouver sa juste place. C'est un objectif qu'on partage finalement en commun dans nos projets respectifs, puisque toi aussi, tu vas nous l'expliquer. Tu aides en tout cas les entrepreneurs à grandir, à pousser. Et tu me confiais être originaire du quartier des Olives à Marseille. On commence du coup par cette première partie, le mois. Ta trajectoire, pourquoi tu en arrives à diriger Cosens aujourd'hui. Et donc, tu es originaire de Marseille, de ce quartier des Olives, et tu en portes également le nom. Ma première question, c'est, toi qui es originaire de Marseille, est-ce que Marseille ressemble aujourd'hui au Marseille des années passées ?
Non, je vais commencer par dire non. Moi, il me semble vraiment, étant un pur produit marseillais, ayant vécu ces dernières années, ayant vu l'évolution de Marseille, bon, moi j'ai grandi dans j'ai 48 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans un Marseille des années 80 qui est un Marseille du Marseille bashing très fort, du déclassement du port de Marseille, de la montée en puissance du chômage et des problématiques. Et donc quand même aujourd'hui, il y a quand même un nouveau ou une nouvelle Marseille qui se dessine. J'aime bien donner deux exemples. Avant, quand tu descendais à Marseille au mois d'août, c'était ville morte. Aujourd'hui, quand tu descends à Marseille au mois d'août, c'est une ville où tu entends parler beaucoup de langues. C'est une ville qui dégage une énergie nouvelle. J'aime bien citer l'exemple aussi du rapport à la bouffe et à la restauration. Mmh. Aujourd'hui, c'est la ville du sandwich et la ville est devenue la ville aussi de la gastronomie, de the place to be pour pouvoir manger avec toutes les bourses et de toutes les façons possibles. Donc il y a vraiment une nouvelle Marseille. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas lucide aussi sur tout ce qui reste à faire. Mais il y a quand même une énergie qui déborde. Il y a une dynamique qui est vraiment intéressante et il y a des possibles qui me semblent s'ouvrir dans cette ville.
Et puis tu l'aimes ce territoire, puisque apparemment tu y es resté.
Alors oui, Oui, moi j'y suis enraciné. Alors, puisqu'on est dans l'allégorie de l'arbre, mes racines, elles descendent très profond.
Okay.
Je pense que cet été, ma sœur m'a envoyé un document qui montrait que notre ancêtre était arrivé en 1515 à Marseille.
Ah oui.
Et qui s'appelait Olive. Donc il a fondé ce quartier qui s'appelle le quartier Olive.
Okay.
Et donc les familles Olive ont donné le nom au quartier. Donc moi j'ai grandi avec avec cet attachement à la ville et avec cette envie de dire, tiens, moi, qu'est-ce que je peux faire en grandissant, qu'est-ce que je peux faire pour cette ville que j'aime tant, qui m'énerve aussi tant, comme, comment dire, c'est la ville ambivalente, quoi. Et donc petit à petit, ça s'est cristallisé avec des rencontres, on va peut-être en parler au cours d'un
quotidien. Oui, de toute façon, c'est ma prochaine question, j'allais te le demander, qu'est-ce qui t'amène t'engager sur ce territoire, dans ta trajectoire, quelles rencontres, quels événements marquants?
Oh, bien, je me souviens, il y a eu un coup de foudre, en fait, un coup de foudre avec un universitaire. J'en parle souvent. Je pense qu'il y a eu un avant et un après. Avant, j'étais un étudiant médiocre. Je dis souvent qu'après, j'ai continué à être un étudiant très moyen, mais je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, cet universitaire était un pionnier du développement local, un pionnier du développement économique local et urbain, et il a su cristalliser, trouver les mots, canaliser pour dire, ben tiens, voilà tout ce qu'on peut faire ici, en étant à la fois lucide, en aimant cette ville éperdument, mais aussi en étant lucide, en le regardant un peu dans les yeux, dans tout ce qu'elle a de beau et de moins beau, et voilà ce qu'on peut y faire. Donc cet universitaire, c'est Philippe Langevin, qui était un universitaire d'Aix-Marseille Université. Je pense qu'on était beaucoup, après ce cours-là, qui était en cours, je me souviens le jour, je me souviens l'heure, je me souviens quand ça a démarré à 14h, à 16h, on était quelques-uns, on savait ce qu'on allait faire, quoi. Et on a tous décidé à 16h qu'on se mettait en marche pour faire cette formation. Et on est beaucoup d'acteurs du développement local aujourd'hui à Marseille à être un peu issus de cette formation et avoir été formés ou déformés par cette formation. Donc il y a eu une première rencontre. Et après, il y a une deuxième rencontre aussi qui a été formatrice, qui est mon stage de fin d'études avec un jeune dirigeant d'entreprise d'insertion qui était sur Aubagne et qui démarrait une structure. Et donc là aussi, l'idée de se dire, tiens, on peut faire du social en faisant de l'économique, on peut essayer de joindre les deux. Et cette personne, c'était Laurent Laïc, donc qui est aujourd'hui Lavarap. Mmh. Et donc qui démarrait et qui avait 15 personnes. Aujourd'hui, il en a 3000. Ouais. Donc il était, c'était une rencontre aussi marquante avec son énergie qui était débordante à l'époque. Et j'étais très intéressé à cette époque-là par la dynamique de l'entreprise d'insertion. Et donc c'était aussi formateur là, d'avoir quelqu'un comme ça qui démarrait et qui était prêt à bousculer un peu les codes et à pousser les murs, quoi.
Oui, Laurent Laïc, effectivement, c'est un très beau projet qu'il mène et ça me fait dire qu'il faudrait qu'on l'invite dans cette émission. C'est une personne qui a toute sa place. Lavarap, qui est une grande entreprise d'insertion à Aubagne, hein, c'est ça?
Alors, qui est à Aubagne, mais qui est aujourd'hui une structure nationale. Hein, quand je dis en 2001, parce que c'était en 2001, ils étaient une vingtaine. Et ils sont plusieurs centaines aujourd'hui, voire plusieurs milliers de collaborateurs, collaboratrices. Donc il fait partie des quelques grosses structures d'insertion par l'activité économique, mais avec des activités complètement diverses et variées, quoi. Donc il y a eu ces deux rencontres, une avec ce rapport à la ville, et puis une avec ce rapport entre l'économie et le social, de dire tiens, voilà comment on peut faire les choses, comment on peut relier les choses, quoi.
Et donc c'est à quel âge que tu te retrouves à créer Cosens?
Alors moi j'ai pas du
à
tout
dirigé Cosens.
Alors le parcours est assez moi j'ai fait tous les métiers dans Cosens. D'ailleurs je suis rentré dans Cosens comme stagiaire non rémunéré. Donc à la fin des études, et puis de là j'ai fait tous les métiers. Donc j'ai été chargé de mission, j'ai été consultant, j'ai été formateur, j'ai été développeur d'antenne. Et puis en 2007, ma directrice historique qui m'avait recruté m'a dit moi j'en ai ras le bol, je peux plus. Donc si tu veux on change de poste. Elle était directrice, j'étais directeur adjoint. Et elle m'a dit, tu pars en vacances, tu réfléchis. Et puis au bout des 15 jours de vacances, si tu es OK, on change de poste. Okay. Donc quand je suis revenu, j'étais directeur. Elle était directrice adjointe. Donc c'était là aussi assez singulier. Et puis on a continué comme ça un petit peu de temps. Donc c'était en 2007. Et puis depuis 2007, j'en suis le directeur. Et puis on a fait d'autres choses, on a monté d'autres projets avec cette personne depuis, à Marseille. Mais donc là, depuis 2007, directeur de Cosens.
Et donc qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton rôle de dirigeant? C'est pas facile d'être dirigeant en 2024.
Non, surtout dirigeant associatif, je dirais. C'est encore une problématique particulière. Ce qui m'anime, je dirais, la curiosité des gens, la curiosité des rencontres, l'énergie que ces gens nous renvoient quand les moments sont plus difficiles comme en ce moment. Donc, de pouvoir intervenir dans la vie de ces gens-là qui décident de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale à un moment qui est un moment où ils vont quitter une vie pour en chercher une autre. Donc c'est un moment vraiment fort pour eux, et de pouvoir être présent à ce moment-là pour nous, avec l'équipe Cosens, c'est vraiment... C'est un privilège, quoi. C'est une chance aussi et une fierté. Et donc, voilà, c'est ce qui nous anime, c'est de pouvoir la rencontre, la curiosité, et puis de travailler dans une structure associative, c'est-à-dire qu'elle ne m'appartient pas, ou elle m'appartient autant qu'elle appartient à Mathieu Cheminal. Voilà, c'est le principe d'une structure associative qui œuvre un peu pour l'intérêt général et pour la ville et pour le territoire plus largement, quoi.
Et c'est quoi le challenge, du coup, les challenges de diriger une structure associative, selon toi ?
Ils sont multiples aujourd'hui. Ils sont de continuer à exister. En ce moment, on parle beaucoup du choc de simplification.
D'accord.
Bon, on en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais arriver. Donc, il y a plutôt un choc de complexification. Donc, c'est comment on peut continuer à parler du fond des projets. C'est-à-dire, pour nous, c'est comment on accompagne des gens, comment on délivre un accompagnement toujours renouvelé, meilleur, comment on accompagne à la création d'entreprises en 2025, parce que je ne pense plus qu'on puisse le faire de la même façon en 2025 qu'en 2001, quand on s'est lancé. Donc, comment on continue à faire ça dans un univers qui est de plus en plus complexe, notamment administrativement. Donc... On peut relire les bouquins de Vincent de Goljac qui dit « La société malade de la gestion », par exemple. Donc ça, il faut arriver à naviguer dans cet environnement-là qui est de plus en plus complexe. Et puis d'être le tampon entre un environnement complexe, instable, peu lisible... Et puis des collaborateurs, eux, qui veulent au contraire de la stabilité, de la lisibilité, qui veulent construire leur vie, qui veulent des rémunérations décentes. Et donc il faut faire la jonction entre ces contraintes-là et puis ces contraintes extérieures et ces contraintes intérieures, et d'essayer de naviguer sur cette crête, quoi.
Et du coup, quelles sont les valeurs qui te guident, qui vous guident chez Cosens au quotidien ?
Oh, des valeurs, je dirais, assez simples. D'abord un peu d'humilité, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des moyens modestes, hein, qu'au sens c'est c'est pas la VARAP justement, c'est une structure de 10 collaborateurs aujourd'hui, 10 collaboratrices, mais qui a accompagné plus de 3000 entrepreneurs, donc
bravo.
On intervient avec nos moyens, on intervient avec le sens de la responsabilité, du professionnalisme. Donc d'essayer de faire tout notre possible pour que le travail soit bien fait, pour dire ce qu'on fait et pour faire ce qu'on dit. Et puis, en termes de valeur, on a quelque chose auquel on tient. Avec ma directrice adjointe, il y a une directrice adjointe qui est à côté dans l'équipe depuis le début aussi, qui est Laurie Di Stefano, et on attache de la valeur à l'humour aussi. On passe beaucoup de temps au travail, énormément de temps au travail, donc il faut que ce temps passé ensemble, ça soit aussi un temps positif, et notamment grâce à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'amuse un peu, et que malgré le climat qui est parfois morose, bon, qu'on continue quand même à trouver des raisons de s'amuser, de s'enthousiasmer, même au bout de 25 ans de travail répétitif, quoi.
Oui, et puis surtout dans une structure associative, je trouve que c'est important aussi quand on est en petit nombre.
Mais dans n'importe quelle structure, mais voilà, donc on aime bien dire sérieux, professionnalisme, des valeurs qui pourraient être l'apanage de n'importe quelle structure. Et mais on aime bien aussi, y compris quand on fait nos recrutements, dire et en plus si vous avez un petit côté. Un petit côté fun ou un petit côté humoristique, ou comment on peut aller titiller les gens sur ça, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous apporter sur cette partie-là. Bon, c'est important pour nous aussi.
Et tu me confiais, Frédéric, que ce qui t'anime aussi dans la vie, c'est de planter des arbres. Tu me confiais ça au téléphone.
Oui, oui. Ouais, alors j'ai trouvé que, comment dire, il y a, y a, y a, y a... cette rencontre, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Bon, oui, voilà, si tu me posais la question de dire mais qu'est-ce qui t'anime dans la vie, je crois que ce qui m'anime, c'est de planter les arbres. Donc j'ai la chance, on a la chance d'avoir depuis des années un endroit où on peut planter ces arbres, qui est un bout de terrain familial dans le Haut-Var. Et donc j'y passe un week-end sur deux à planter des arbres, et notamment des oliviers, ce qui, quand on s'appelle Frédéric Olive.
Incroyable.
Voilà, la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
On tombe toujours sur l'olive.
Sur l'olive et sur la forêt.
Sur la forêt.
Donc voilà, c'est ce qui m'anime.
On va maintenant passer à la partie, à la deuxième partie qui est consacrée au nous. Déjà, je voulais te demander pourquoi Cosens, c'est collectif.
Alors, on n'a pas eu toujours ce nom. Ouais. On a eu un nom qui était un acronyme. On s'appelait la Dige. On est né dans les quartiers nord de Marseille en à la fin des années 90, début des années 2000. Et la Dige voulait dire l'Association pour le droit à l'initiative des jeunes entrepreneurs.
Okay.
Et puis, on a vécu avec ce nom jusqu'en 2010. Et puis là, en 2010, une première fois, on s'est dit qu'il fallait qu'on se réinvente parce que le contexte changeait, parce que nous, on avait envie de changer. Et donc, on a mené un travail collectif avec les membres du conseil d'administration, avec l'équipe. Et de ce travail collectif est né, est né ce nom de Cosens. Dans Cosens, il y avait l'envie de dire collectif. Il y avait l'envie de dire cohérence. Il y avait l'envie de dire coproduction. Il y avait tout ça, il y avait tout le co. Et puis la question du sens, c'est-à-dire comment nous on pouvait... c'était important d'intervenir dans la vie de ces gens qui nous sollicitaient en donnant un sens à leur parcours, en donnant un sens à... que ce qu'on faisait avait un sens. Et donc on est allé... ça a donné qu'au sens. Et ça, c'est né au début des années 2000, 2011, 2012.
Et alors concrètement, comment vous aidez des individus qui auraient une idée, un projet, mais qui n'oseraient pas forcément se lancer parfois, à transformer ces projets individuels en réussite et en réussite collective? Parce que j'ai bien compris que le collectif était important pour toi.
Alors notre principal outil depuis nos origines s'appelle la couveuse d'entreprise. Donc ça, c'est un outil très particulier, très intéressant en entrepreneuriat, parce qu'il permet à une personne de lancer son projet sans créer l'entreprise. Donc on lui apporte un contrat qui permet d'avoir tous les numéros légaux pour pouvoir exercer son activité. Donc la personne va pouvoir communiquer, prospecter, facturer, développer son projet comme si elle était créée, mais tout en n'étant pas créée encore. Donc c'est un espace de test et d'apprentissage du métier d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Et parallèlement à cet espace de test, il y a tout un package. J'ai tout un arsenal, je dirais, d'accompagnement à la fois individuel, collectif, pour permettre à l'entrepreneur qui fait son test, qui est confronté au réel, aussi d'aller puiser dans l'accompagnement individuel, d'aller puiser dans le programme de formation, des ressources, des savoirs, des réponses à des questions qui se posent, de par sa confrontation au réel sur le marché, quoi. Donc c'est un processus d'apprentissage par la confrontation au réel, qui est très intéressant, puisque ce n'est pas des prévisionnels, des comptes d'exploitation prévisionnels, mais c'est voilà comment ça se passe, c'est-à-dire demain je prospecte, je communique, je facture, donc j'ai des vraies problématiques d'entrepreneur, j'ai des vraies problématiques de prospection, j'ai des vraies problématiques de coups de mou parce que ça ne marche pas, et de tout ça, on en tire nous la matière pour pouvoir accompagner les porteurs et les porteuses de projets. Ça, on peut le faire pendant 3 ans,
ouais,
c'est
la question que j'allais te poser.
C'est un parcours tout à fait dense en matière d'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc l'entrepreneur ou l'entrepreneuse peut le faire pendant 3 ans. Il peut aussi sortir beaucoup plus tôt. Et puis s'il sort plus tôt ou s'il sort au bout des 3 ans, il peut créer son entreprise et avoir sa propre activité. Mais au moment où la personne crée son entreprise, elle a déjà un historique de 3 ans d'activité, elle a déjà un fichier client, elle sait déjà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Elle a pu notamment se tester, elle, en tant qu'entrepreneur ou qu'entrepreneuse. Est-ce que je suis fait ou pas pour ça? Est-ce que je suis fait pour me lever tous les matins et aller prospecter, tirer des sonnettes et essayer de gagner sa vie comme ça? Donc ça, c'est des réponses à des questions importantes. Et donc, il y a 3 ans pour apprendre tout ça, pour tester tout ça, pour monter en puissance dans un espace sécurisé, et puis pour décider de créer ou pas. Ça, c'est notre outil principal. Et après, on a des outils plus classiques, d'accompagnement plus resserré sur des thématiques comme être accompagné sur la réalisation d'un business plan, être accompagné sur certaines formations très spécifiques. On a aussi dans nos services, nos métiers aujourd'hui, il y a nos espaces de travail qui sont des espaces de coworking, de télétravail dédiés à tous ceux qui veulent soit travailler, soit entreprendre aussi autrement. Donc on a aussi des gens qui ont créé leur boîte mais qui ne veulent pas rester seuls chez eux et qui viennent travailler dans nos espaces. Et puis on a aussi des gens qui sont salariés de boîtes parisiennes aussi qui ont un espace de travail chez nous et qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat là, mais qui viennent un peu travailler autrement. Après, on a aussi des outils très spécifiques puisqu'on a un espace test agricole. Donc là, on accompagne des agriculteurs à Pertuis, donc 5 hectares avec des serres, des tracteurs, tout le matériel pour pouvoir entreprendre. Et donc là, de la même manière que dans la couveuse, l'entrepreneur agricole va pouvoir venir tester son projet. Mais là, en plus, il a les terres, il a un tuteur, il a un partenariat avec la chambre d'agriculture. Bref, tout un partenariat qui lui permet de tester son projet et d'apprendre à devenir agriculteur ou de peaufiner son apprentissage pendant 3 ans, et de pouvoir lancer son entreprise à la sortie.
Et alors, ma question, c'est sur les... Tu disais que vous aviez accompagné 3000 projets. Est-ce que tu saurais dire combien arrivent vivre, à lancer réellement leur projet, et à transformer leur vie ou...
Chaque année, quand il y a 100 personnes qui quittent Cosens, il y en a 60 qui vont créer leur entreprise, donc à peu près 60%. Un peu plus, certaines années un peu moins, c'est en fonction du contexte notamment économique. Mais il y en a aussi 10, 15, voire 20% qui retrouvent un job salarié pendant le parcours.
Okay.
Ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que comme on dit que c'est un espace de test, il y a des porteurs de projets qui se disent ben voilà, l'entrepreneuriat, du rêve à la réalité, j'ai pu me confronter, c'est pas pour moi finalement. Aller prospecter tous les jours, comme je le disais, je m'y fais pas, ça m'intéresse pas finalement. Et donc, qui font le deuil du projet de création pendant ce parcours, ou parfois qui prospectent et puis à qui on dit mais moi j'ai pas besoin d'un prestataire mais j'ai besoin d'un salarié. Et là voilà, donc là il y en a qui prennent un job à la volée. Et donc c'est important, quelle que soit l'issue du parcours, c'est un parcours qui est mobilisateur pour développer des compétences. Et donc même quand on ne crée pas, on a développé des compétences. On a souvent le mot qui revient quand on fait quand on interroge nos créateurs là, c'est vous m'avez permis de reprendre confiance dans mon parcours, en moi. Et donc cette confiance acquise pendant le parcours, même s'il n'y a pas de création, elle est réutilisable pour une recherche de job salarié et souvent avec pertinence et efficacité.
Oui, complètement. Ce que je trouve difficile, moi, en France, c'est vrai qu'on a un rapport à l'échec qui est un peu particulier. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'y mettre toute son... Enfin, de devoir se lancer dans quelque chose qui doit absolument réussir. Et si ça ne réussit pas, c'est un échec total. Et puis tout le monde va vous poisser du doigt. Bon, on comprend en tout cas qu'avec Cosens, ça permet d'expérimenter.
De tester.
De tester. Et que quoi qu'il en soit, ces compétences entrepreneuriales sont... un plus pour la suite.
C'est tout à fait ça.
Est-ce que tu as deux ou trois belles histoires à nous raconter, des projets dont tu es particulièrement fier de ton accompagnement, de votre accompagnement chez Cosens?
Oui, et à la fois je me dis, citer ceux-là, c'est oublier tous les autres. Il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui est devenu un peu notre QG pour Cosens, qui est une porteuse de projet que nous avons accompagnée, qui s'appelle Sylvaine Roustan, qu'on a accompagnée pour un projet de consulting. Et puis en cours de route, la vie, l'a rattrapée, puisqu'elle est issue d'une famille de vignerons. D'accord. Et elle a dû être confrontée à un choix qui était, est-ce que je reprends ou pas le domaine familial? Et elle a repris le domaine familial, et elle en a fait un domaine viticole et oléicole exemplaire, bio, à la force de ses bras, toute seule. Donc un domaine qui est basé à la Fare les Oliviers. Et donc là, c'est vraiment une personne, symbole du courage qu'il faut, de la ténacité qu'il faut. Et puis symbole aussi du lien parfois qu'on arrive à construire avec les entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a accompagné, il y a 10 ans peut-être un peu plus. Et pourtant, maintenant, chaque année, c'est notre QG pour notre... qu'on suit encore, avec qui on développe des projets. Donc là, on a développé le projet de créer un conservatoire d'oliviers Donc, puisque là, notre passion commune était de la planter des arbres,
boucle encore.
Voilà. Et donc, qui était une manière aussi d'emmener la communauté pour comment dire, mettre un peu les mains dans la terre. Donc, il y a Sylvaine, voilà, Roustan, à la fin, les oliviers. Et puis, il y a des projets, comment dire, parfois, je suis dans Marseille, je déambule. Là, récemment, j'étais sur le marché de Noël. Puis, je passe devant les cabanes. Et puis, boum, je tombe sur Patrick Guzik, qui est le cabanon du photographe, qui fait ses panoramiques sur Marseille. Bon, voilà, c'est Patrick, je me souviens, moi je l'accompagnais encore il y a 20 ans. Et puis 20 ans après, il est là, il m'a dit qu'il était sur le point de prendre sa retraite. Donc ça me faisait drôle parce que c'est le premier entrepreneur, accompagné et qui aujourd'hui prend sa retraite. Et puis chaque année, je le vois, et puis chaque année, on parle de son activité, et puis la boucle est bouclée là aussi. Donc c'est parfois, voilà, on déambule dans la ville et puis on s'arrête à un endroit. On s'arrête, je disais aussi Emmanuel Arnoux, le bar à pain. Voilà, ça c'est quelqu'un aussi qui a un parcours. Il était dans une autre vie, il était dans un autre métier, et puis il décide de devenir boulanger. Donc il plaque tout, il change tout, et puis il crée ce truc-là qui est une formidable réussite au chapitre, quoi, le bar à pain. Donc voilà, c'est parfois tu passes dans Marseille et puis tu dis tiens, hop, tac, et puis tu rentres, tu passes la porte, tu retrouves un entrepreneur ou une entrepreneuse. Donc ça, c'est...
C'est un très beau cadeau, en tout cas, pour toi.
Et pour l'équipe, oui. C'est ça, les énergies positives qui nourrissent.
Et justement, je me posais la question aussi quand j'ai préparé l'émission. Je vois que tu as une passion pour le territoire, en tout cas que tu agis beaucoup au niveau territorial. Et je me posais la question des synergies que tu avais développées avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un projet qui va se faire, dont tu as lu la nouvelle aujourd'hui avec, j'ai oublié le nom de la collectivité.
Allô ?
Oui, allô, oui. Tout à fait. Donc est-ce que tu as des exemples de synergie avec des collectivités locales pour développer l'impact local et l'esprit de communauté et si oui, quelles sont-elles ?
Alors on en a beaucoup parce que notre modèle associatif, il est complètement hybride. On a deux types de partenariats, de partenaires financiers. On a les grandes collectivités aujourd'hui, la région sud, l'Europe, la métropole, la ville de Marseille par exemple, et le département des Bouches-du-Rhône aussi sur d'autres thématiques. Et puis les entrepreneurs à côté aussi qui participent financièrement à leur parcours. Donc dans notre modèle économique, c'est important. Donc on a construit le dispositif couveuse grâce aux collectivités depuis des années. On l'a inscrit dans une politique publique aujourd'hui qui s'appelle Mon projet d'entreprise. Donc il y a une reconnaissance vraiment du dispositif couveuse par le biais de ce dispositif régional qui s'appelle Mon projet d'entreprise.
D'accord,
tester son marché. Donc ça, c'est très important. Et puis avec Métropole, on a développé depuis des années l'outil couveuse et on a développé plus récemment, grâce à la Métropole, cet espace test agricole qui permet d'accompagner des agriculteurs. Donc là on est vraiment au cœur du réacteur d'un enjeu de société très très fort.
Exactement.
Puisque dans les 10 ans à venir, le chiffre qui tourne, c'est 40% de la population d'agriculteurs va s'arrêter.
Okay.
Et donc il y a un enjeu de renouvellement. Donc là, avec ce projet-là, on est vraiment sur un enjeu sociétal de territoire très fort. Et puis, je peux citer aussi avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui nous a permis d'expérimenter vraiment quelque chose de très chouette et qui nous a permis d'offrir des places de coworking pour des demandeurs d'emploi qui seraient en recherche d'emploi chez eux de manière isolée. Et le Conseil départemental préfinance des places aussi pour qu'on puisse accueillir des demandeurs d'emploi dans l'espace de coworking Cosens pour que ces demandeurs d'emploi, qui sont souvent aussi des gens qualifiés ou très qualifiés, qui ne trouvent pas réponse dans les outils traditionnels d'accompagnement et qui viennent chercher là la possibilité d'ouvrir un peu les fenêtres, de décloisonner, de venir frotter ses neurones avec d'autres entrepreneurs, d'écouter s'il n'y a pas un job ou le marché caché. Donc là, voilà. Et puis j'aime bien citer ces dernières années, il y a deux projets qui ont impacté un peu le territoire. On a été partie prenante pendant des années, membre fondateur d'un projet qui s'appelle le Carburateur, dans le nord de Marseille, donc qui est le pôle entrepreneurial du 15e arrondissement, avec d'autres réseaux d'accompagnement à la création. Et on a fait la même chose sur Martigues avec un pôle qui s'appelle le Mikado, et donc qui est aussi plus petit que le Carburateur. Carburateur à Marseille, c'est 1500 m², peut-être un petit peu plus. Et le Martigues, c'est 600 m², mais avec le même esprit, c'est-à-dire quand on pousse la porte de ces lieux, On a des opportunités qui vont s'ouvrir pour celui ou celle qui est porteuse de projet. Il y a la possibilité de se faire accompagner, il y a la possibilité de rencontrer des gens. Et c'est déjà une première étape, c'est le premier pied dans une autre vie, quoi. Donc ça, voilà.
Et tu as dit un mot qui me paraît important, en tout cas quand j'entends les synergies que tu as avec le territoire, les entrepreneurs que tu accompagnes, les tiers-lieux, c'est décloisonner.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi et en quoi ça rejoint aussi un petit peu la transformation que tu souhaites pour Marseille ?
Ouais, j'aime bien ce mot. Je trouve que des fois, quand on regarde Marseille un peu de l'extérieur, on parle de la ville cosmopolite, ce qui est vrai, tout ça. Mais quand on rentre un peu dans le micro, il y a encore évidemment une Marseille du Nord, une Marseille du Sud. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Donc il y a un enjeu de décloisonnement encore pour qu'on parle plus que peut-être d'une seule Marseille, mais de décloisonner, de continuer à faire en sorte que des gens différents se rencontrent. Ce qui est important en entrepreneuriat, c'est justement quand tu rencontres des gens différents, ben, y a des opportunités qui peuvent naître. Certes, il y a des opportunités si tu rencontres des gens qui font le même business que toi, mais parfois, quand tu rencontres, si tu mets un designer avec quelqu'un des métiers du conseil, ben, de cette friction-là, il va peut-être en naître des choses tout à fait innovantes ou intéressantes. Donc permettre à des gens différents de se rencontrer, donc décloisonner, ça c'est important sur notre métier d'entrepreneur. Puis on dit souvent que la formule un peu bateau, là, ouais, l'ascenseur social est cassé. Donc le fait de décloisonner, c'est de se dire, tiens, les missions aujourd'hui s'appellent la forêt des possibles. Donc comment on peut faire de cette ville une ville des possibles ? C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où j'habite dans la ville, je sais que je vais pouvoir y arriver, je sais que je vais pouvoir faire quelque chose, je sais que je ne suis pas relégué à mon territoire, à mon lieu. Donc décloisonner, c'est dans ce sens-là aussi, quoi.
Et avant de passer à la troisième partie sur le tout, on va faire une petite pause musicale et tu vas nous dire la musique que tu as choisie pour cette pause musicale.
Tu m'as posé la question et spontanément, ce qui m'est venu, c'est Clair de lune de Claude Debussy.
Clair de lune de Debussy. On écoute tout de suite et à tout de suite sur Radio Galère. Et on est de retour, sur Radio Galère 88.4 FM pour l'émission La Forêt des Possibles. Et aujourd'hui, on est avec Frédéric Olive, qui est le directeur de Causens. Et donc, on va passer à notre troisième partie, le tout. Alors Frédéric, quels sont les imaginaires que Causens fait émerger, selon toi, le grand rêve que tu souhaites, toi, voir poussé dans la société? Quel est-il?
Merci pour cette question, je vous remercie de m'avoir posé.
Avant la pause musicale, on parlait de l'ascenseur social un peu en panne et donc de comment modestement, avec nos moyens, on peut remettre en place cette idée que demain sera meilleur, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tenir ce message-là, c'est-à-dire, mais oui, pas d'inquiétude, demain sera meilleur, c'est un peu compliqué. Donc comment on peut participer à cette idée que demain sera meilleur et de permettre à chacun de se dire, dans cette ville ou ailleurs sur le territoire, mais finalement, moi, je vais y arriver, je peux faire quelque chose, j'ai un projet, il y a un possible, quoi. Il y a un possible pour moi et je vais pouvoir, avec cet espace, alors qu'il y a Causens ou cet accompagnement, je vais pouvoir passer d'un état A à un état B, et sachant que l'état B serait meilleur, quoi.
Prendre conscience pour prendre confiance.
Merci de l'avoir noté.
Je l'avais noté. Et alors, selon toi, c'est quoi les clés pour donner la possibilité à chaque citoyen de se sentir légitime? Parce que c'est pas facile de se sentir légitime, puis d'autant plus avec toutes les problématiques actuelles, se lancer dans un projet entrepreneurial, c'est pas évident. C'est quoi pour toi les clés pour donner confiance aux gens?
Cette question de la confiance, je dis souvent que nous, on est le relais de confiance entre aussi des collectivités, le territoire ou les personnes qui habitent le territoire. Donc nous, notre métier aujourd'hui, c'est d'aller convaincre et de continuer à convaincre des collectivités que ce qu'on fait aujourd'hui a une valeur ajoutée et qu'on ait ce relais de confiance. C'est-à-dire qu'entre entre des forces vives du territoire et puis une politique publique, il manque un intermédiaire, où il faut un intermédiaire, et on essaye tous les jours de convaincre pour être cet intermédiaire-là et qu'on nous donne les moyens d'être ce relais de confiance. Donc voilà, si on continue à nous faire confiance à nous et à nous donner les moyens de déployer nos actions, cette confiance qu'on nous donne, on la restitue sur le territoire, on la canalise, on en fait une énergie positive pour accompagner des gens qui le rendront eux aussi au territoire, et ainsi la boucle vertueuse peut se mettre en place, quoi.
Et alors justement, le rôle des politiques publiques, enfin, est-ce que tu te sens, tu nous parlais tout à l'heure de certains dispositifs qui existent, ou des synergies avec les collectivités locales, est-ce que tu te sens soutenu au niveau des politiques publiques?
Oui, c'est un travail de tous les jours ou de toutes les années, donc c'est chaque année il faut remettre le compteur à zéro et repartir dans le dialogue, dans la co-construction. Il faut trouver ou créer des espaces de co-construction de la politique publique, c'est-à-dire on a envie que ce territoire soit plus dynamique, plus innovant, on a envie que ce territoire soit plus résilient, on a envie que ce territoire soit plus écologique. Donc ça, c'est des volontés politiques, et nous on essaye de proposer des projets pour que cette volonté politique puisse se traduire en action et puisse toucher le client final ou l'utilisateur final. Et j'aime bien la formule en ce moment de dire qu'on est le dernier kilomètre de la politique publique. On dit souvent en logistique que le dernier kilomètre c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué, et donc nous on essaye d'être ce dernier kilomètre de la politique publique, c'est-à-dire celui qui va essayer de mettre en action, d'infuser sur le territoire et d'aller toucher les personnes qui ont besoin justement de ce qu'on essaye de mettre en œuvre.
Et est-ce que, alors, simple question comme ça, mais dans les politiques pour les quartiers prioritaires de la ville, est-ce que frappe à la porte de Cosens, ou est-ce que tu rencontres parfois des personnes à qui l'entrepreneuriat n'était clairement pas destiné et qui avancent aussi grâce à Cosens, ou est-ce que c'est compliqué de les rencontrer?
Je dirais qu'il y a une histoire un peu qui a évolué. Donc notre histoire, elle est née dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille. Et au fil des années, on s'est aperçu que notre public était de moins en moins celui-ci. Et puis un jour, on a pris la décision en fait de dire peut-être que notre place elle est plus là. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de toujours d'aller solliciter, par exemple, des fonds de la politique de la ville, on a décidé une année d'arrêter de les mobiliser et de se concentrer sur une autre voie et de laisser la place à des opérateurs qui étaient mieux calibrés que nous, mieux, plus performants que nous sur ces questions-là. Et donc le dernier exemple que j'ai en date, on avait un dispositif qui s'appelait le Cité Lab, donc qui est un dispositif d'amorçage de projets dans les quartiers prioritaires. Et donc on avait un dispositif sur le territoire de Vitrolles-Marignane. Et donc on a décidé de non pas d'arrêter ce dispositif, mais de le transférer à une structure amie et cousine qui s'appelle Intermed. Et donc nous, moi j'ai dit voilà, nous on sent qu'on n'ira pas plus loin sur ce projet-là. Ce projet-là, il fonctionne. Et donc, est-ce que ça vous intéresse de reprendre le chef de projet, l'action? Et donc, on a transféré l'action, et Intermed, ça fait 3 ans aujourd'hui, continue à porter l'action. Et donc, nous, ça nous a permis de nous reconcentrer et de tracer une feuille de route un peu différente.
Ouais.
Après, il y a 10 ans, on a choisi de s'installer, d'acheter nos locaux en plein cœur de Marseille, dans le centre-ville de Marseille. Donc on a acheté des locaux qui étaient, comme on dirait à Marseille, tout était à faire. Donc on y a investi 800 000 euros par une levée de fonds bancaires. Et donc là, on a installé un lieu dédié à l'entrepreneuriat en plein cœur d'un territoire qui est considéré comme un territoire politique de la ville. Et donc c'était une manière pour les administrateurs de Cosens de rester cohérents par rapport au projet originel.
D'accord.
De dire, on est né... notre action, elle est née dans certains quartiers, pour un certain public. On s'en est éloigné au fur et à mesure des années, mais on peut peut-être quand même faire des choses de manière différente et s'investir dans ce quartier et rénover ce qui est aujourd'hui notre siège social. Permet aujourd'hui d'avoir un lieu en permanence sur ce lieu, peut-être une trentaine ou parfois plus de personnes qui viennent là, qui vivent le quartier, qui mangent dans le quartier et qui redynamisent le quartier d'une manière différente.
Et moi j'ai une petite question, Fred. On parlait un peu de l'évolution de Marseille, de ces néo-marseillais hors antenne. Ces gens-là, ils arrivent avec une texture, une couleur. Ils arrivent aussi avec des projets d'entrepreneuriat. Toutes ces personnes qui viennent en fait s'installer à Marseille. Est-ce que toi, avec ces 3000 projets accompagnés, est-ce que tu as pu sentir aussi dans l'entrepreneuriat cette teinte des personnes qui viennent s'installer à Marseille? Et comment tu le vois? De quel œil en fait tu le vois, ces projets qui viennent d'ailleurs, qui s'implantent, qui s'essaiment aussi à Marseille?
Nous, on a eu beaucoup de profils comme ça, de néo-marseillais, parce que je pense que ce qu'ils venaient chercher dans le Cosens aussi, c'était une forme d'ancrage dans le territoire. C'est-à-dire, je débarque à Marseille, on nous dit souvent ici que la question des réseaux, la question de l'ancrage est assez prégnante. Et donc, ce type de profil-là venait chercher dans le Cosens cet ancrage et cette connaissance du comment ça se passe à Marseille. Nous, on a toujours eu, en tout cas moi, j'ai toujours eu une vision assez positive de ce 109 qui arrivait pour la ville. Évidemment que la ville, comment dire, son renouveau, il passe par les Marseillais eux-mêmes, mais il passe aussi par ses regards, ses énergies nouvelles. Là aussi, il faut être lucide, il y en a beaucoup qui sont venus aussi et qui ont rebondi, c'est-à-dire qui sont venus croyant un Eldorado ou croyant pouvoir dupliquer assez facilement, une vie parisienne ou des conditions de déploiement de projets parisiens de la même façon à Marseille, avec plus de difficultés du coup, et qui sont aussi repartis. Donc il y a aussi je viens et je repars, parce que la ville n'a pas la même densité, la ville n'a pas la même forme de richesse. Donc il y avait une vision un peu du rêve à la réalité, le passage du rêve à la réalité qui était aussi difficile pour une partie. Mais nous, on a toujours vu cet accueil de nouvelles énergies, un accueil positif pour la ville, pour lui permettre justement de changer de braquet, quoi, et de se transformer.
Merci Jeanne pour cette question. Est-ce que tu as un message à faire passer ou un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent à lancer leur projet ou qui ont une idée et qui ne sont pas forcément familiers de l'entrepreneuriat ?
Il y en a beaucoup. Le message, c'est si on reprend les chiffres de la création, l'année dernière, il y a un peu plus d'un million de créations. Donc c'est un chiffre très important. Mais sur ce million de créations, il y a encore très peu de gens qui sont accompagnés. Et donc souvent, on rencontre des personnes qui se posent les bonnes questions pour la création, mais une fois qu'ils ont créé leur entreprise. Et donc c'est plus délicat parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. Et donc le message que je voudrais faire passer, ou qu'on voudrait faire passer, et je ne suis pas le seul, c'est de se dire la richesse de ce territoire marseillais, métropolitain, ou même de la région sud, c'est d'avoir un écosystème très dense d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc si je veux un accompagnement long, un accompagnement court, un accompagnement thématique, je vais pouvoir le trouver près de chez moi. Il y a forcément une structure, une personne, un outil qui existe près de chez moi. Il faut que le porteur de projet ou la porteuse de projet qui est hésitante en ce moment en train de nous écouter puisse tout simplement se mettre en mouvement et pousser la porte de n'importe quelle structure. Et puis si c'est pas la bonne, c'est la théorie du ricochet qui va démarrer. C'est-à-dire, je rentre chez Cosens, c'est peut-être pas eux qui vont m'accompagner, c'est peut-être pas le bon outil, le bon dispositif. Mais en tout cas, je vais pouvoir être aussi renvoyé ou réorienté sur le bon outil, le bon dispositif. Et j'espère que mes collègues font la même chose. Oui. Et donc là, voilà, l'idée, c'est se dire, c'est vraiment une richesse sur ce territoire. Pour celui ou celle qui veut entreprendre, il y a vraiment des dispositifs très variés et qui correspondent aussi à de besoins très variés. C'est-à-dire, s'il y a autant de dispositifs différents, c'est que les entrepreneurs et les entrepreneuses ne sont pas tous pareils. Il y en a qui ont besoin d'accompagnement technique, il y en a qui ont besoin de réassurance, il y en a qui ont besoin de bureaux, de logistique. Et donc, il y a des dispositifs différents. C'est la richesse de ce territoire. Moi, c'est juste de ne pas passer à côté de tout ce qui existe. C'est dommage parce que, évidemment, c'est un gage de sécurisation du parcours pour lancer sa création, et puis de faire mieux et plus vite, et donc d'épanouissement professionnel et personnel plus rapide, quoi, pour celui qui porte le projet.
Oui, complètement. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous travaillez aussi en toute humilité, et puis quand ça, le projet doit passer ailleurs, il passe ailleurs.
Il passe ailleurs.
Voilà. Ok. Et ben, en tout cas, on vous invite à contacter Frédéric et l'équipe de Cosens. Allez-y si vous avez une idée, un projet ou l'envie de changer de vie.
Poussez la porte.
On va maintenant passer à notre petite question surprise qu'on fait à tous nos invités, qui est une projection en 2030. Donc pour cela, mes chers amis du studio et de la régie, Frédéric, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants. Respirez. et je vais vous projeter à Marseille en 2030. Nous sommes dans les rues de Marseille, nous marchons le long de la Canebière et nous observons, nous sentons, nous marchons tranquillement, nous touchons, nous écoutons, nous nous déplaçons et nous apercevons que les choses ont changé en quelques années. La cité a évolué, elle est différente. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on entend? Comment est cette cité phocéenne en 2030? Je vais vous demander d'ouvrir les yeux, vous aussi, chez vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et Frédéric, je vais simplement te demander ce que tu as vu qu'est-ce que tu as ressenti dans cette Marseille 2030.
Oh, je me suis dit qu'il y a des gens qui rient. Il y a des gens qui portent le sourire sur leur visage. Voilà, en remontant la Canebière, je me disais ça là. Tiens, donc voilà, il y a une énergie positive qui se dégage. Et Marseille est la ville des possibles, quoi. C'est-à-dire qu'on vient à Marseille et c'est pas là, je vais trahir peut-être quelque chose pour les auditeurs, c'est pas à toi qui est venu dans cette ville aussi, tu vas chercher peut-être quelque chose. Marseille, c'est la ville des possibles. On vient à Marseille parce qu'ici c'est possible, voilà. On y vient d'ailleurs, et pour ceux qui y sont, quel que soit l'endroit où ils sont dans cette ville, c'est possible aussi pour eux. Donc voilà, on sait que ici c'est possible, voilà. Donc je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un peu redondant, quoi.
Et la ville de tous les possibles. Tu voulais ajouter quelque chose, Jeanne ?
Bah non, moi je commence à la dessiner un peu, cette ville, dans ma tête. Je vois assez bien comment c'est un peu une jungle urbaine, des vélos, de la mobilité douce, des rollers, des musiciens un peu partout. Et puis des grandes tables où les gens travaillent dehors, ils échangent des idées, ils jouent au ping-pong. Je sais pas, j'ai un peu eu l'image du ping-pong là dans la version de ce soir. Je sais pas, je peux jouer au ping-pong aujourd'hui. Pour ça.
Félix, tu veux nous partager ?
Moi, c'est surtout les grands arbres qui me sont venus ce soir, les grands arbres en dessous desquels on pourrait être à l'ombre l'été. Voilà.
Et moi, j'imagine simplement des pistes cyclables identifiables où les piétons voient que c'est une piste cyclable, puisque pour l'instant, ça ne se voit pas très bien. Qu'est-ce qui se passe en 2025 pour Cosens, vu que ça fait déjà depuis 2001 que ça existe? C'est quoi la prochaine étape, Frédéric?
Ben, il y a une étape très importante pour nous, puisque au courant du mois de janvier, on arrive au bout d'un processus de rapprochement avec une autre structure. Donc je parlais tout à l'heure de la complexification de l'environnement qui est un peu dur là, et cet environnement là il pèse sur les structures qui recherchent notamment des tailles critiques plus importantes pour pouvoir affronter les nouveaux challenges. Et donc là on se rapproche avec une structure des collègues du 06 de Cannes, et donc au mois de janvier, ben, Cosens, qui intervient aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône, les Alpes d'Haute-Provence, interviendra aussi sur les Alpes-Maritimes, et donc tout le territoire. Donc on fait grandir l'équipe aussi, c'est bien, on crée des postes où on l'espère, on va créer des postes qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui nous permettent de structurer nos actions, d'être encore plus professionnels et d'avoir une qualité de service toujours améliorée pour ceux et celles qui veulent entreprendre. Donc ça, c'est tout bientôt. Et puis, il y a un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui sera dans la foulée au mois de février ou au mois de mars, parce qu'au mois de février ou au mois de mars, c'est le mois où on peut planter encore des oliviers, où on doit planter des oliviers. Et donc, depuis 2 ans maintenant, l'année dernière, on a fait notre première année de notre projet qui s'appelle le Conservatoire des Oliviers Méditerranéens, avec le domaine Roustan. Et donc là, on emmène toute la communauté Cossens pour planter des oliviers.
D'accord.
À la Phare les Oliviers.
Génial.
Voilà. Donc on plante des oliviers. L'année dernière, c'était une année de lancement très particulière parce que c'était nos 25 ans. Et lors de notre soirée des 25 ans, on avait demandé à chaque invité de formuler un rêve. Et donc, on a pris ces rêves qui ont été accrochés aux arbres à la Phare les Oliviers. Et donc, on a dit, on va s'occuper de vos rêves.
Ah,
on, on va les arroser, on va les laisser grandir. On a vu que cet été, il y avait un premier olivier qui avait donné quelques fruits, si on reste dans l'allégorie de l'arbre. Et cette année, on en replante encore une trentaine. Donc, on veut en planter une centaine sur 3 ans avec cette entrepreneuse qui est Sylvaine. Donc, le matin, on plante les arbres. Et puis, à midi, on fait encore une dégustation, une découverte de ces produits avec la communauté Cossens. C'est une manière pour nous d'emmener aussi notre communauté à s'engager une fois de plus ou d'une manière différente sur la question de la transition éco, en se disant, mais vous voyez, à côté de chez vous, il y a des choses simples, il y a des gens simples et courageux qui font des choses. Si vous pouvez les appuyer, c'est bien. Si vous pouvez lui acheter ses produits, c'est bien. Si vous pouvez faire quelque chose, vous aussi, c'est bien. Donc ça, ça sera au mois de février. Et donc voilà, ça, c'est notre début d'année très, très rythmé et très positif.
Génial. Est-ce que l'équipe de radio de la Forêt des Possibles peut venir planter des oliviers avec vous ?
Évidemment.
Eh ben génial.
Ouais.
Eh ben venez vous aussi planter des rêves. Et en tout cas, on te remercie, Frédéric.
C'est moi qui vous remercie
d'être venu parmi nous dans cette émission La Forêt des Possibles. Pour nos auditeurs et nos auditrices, une petite pause s'impose puisque les fêtes arrivent à grands pas. Et donc, on se retrouve en 2025, le 8 janvier 2025, et on recevra Cerise Steiner des Fabricoleuses. D'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Jeanne. Merci
Félix.
Planter des arbres,
arroser vos
rêves. Un grand merci pour toutes vos écoutes sur cette année 2024. On a été ravis et on vous retrouve en forme dès le 8 janvier avec les Fabricoleuses. Merci Frédéric.
Merci.
Et à bientôt.
Salut.